Hey, let's go.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous sommes à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour parler du premier programme de réduction des risques en Afrique de l'Est. Un programme lancé en 2011 par l'ONG Médecins du Monde, en collaboration avec le ministère de la Santé tanzanien, pour faire face à l'explosion des cas de sida et d'hépatite chez les usagers de drogue. Alors, pour Médecins du Monde, l'objectif est triple, hein, assurer la prestation de services pour prouver que le programme fonctionne en Tanzanie, comme c'est d'ailleurs déjà le cas à l'île Maurice, en Afghanistan ou au Maroc, par exemple. Deuxièmement, faire des formations pratiques des usagers de drogue eux-mêmes, des policiers, des personnels de santé, des ONG locales. Et enfin, continuer le plaidoyer pour pérenniser le programme et récolter des fonds pour l'étendre à l'ensemble du pays. Un reportage d'Igor Strauss. Georges est père éducateur, c'est-à-dire en fait qu'il a été consommateur de drogue et aujourd'hui il vient en aide aux usagers de drogue.
J'ai commencé les injections en l'an 2000. Avant je ne faisais que fumer de l'héroïne. Mais je fumais tellement qu'il me fallait beaucoup d'argent. Et puis un jour, des amis m'ont dit, Georges, comme tu fumes, tu as besoin de plus de doses, de plus de kété. En plus, quand tu manges, ça diminue l'effet. Tu devrais t'injecter la drogue. L'effet dure beaucoup plus longtemps et il t'en faudra moins. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me shooter. Mais le problème, c'est que c'était très difficile de trouver des seringues. Avec la stigmatisation, la plupart des pharmaciens refusaient de nous en donner. Et puis, il fallait trouver de l'argent. Ça aussi, c'était un problème. Parfois, la nuit, on agressait des gens, on volait le sac des filles. Mais ce n'était pas évident. Du coup, dès qu'on avait une seringue, eh bien on la partageait. J'ai partagé un nombre incroyable de seringues. Et à l'époque, on ne connaissait pas les risques. Mais de toute façon, on n'avait pas le choix. On avait des abcès, on faisait des infections, mais on n'avait pas accès au centre de santé. On nous disait, vous avez des problèmes de santé, c'est normal, vous êtes des toxicomanes. Je me rappelle un jour, j'ai un ami qui était vraiment mal. On l'a amené dans un centre de santé, mais personne ne voulait s'en occuper. Il est resté 3 jours allongé à l'extérieur et personne ne s'est occupé de lui. Nous, de temps en temps, on venait le voir. On lui apportait des fruits. C'était vraiment dur. Avec la stigmatisation, nous, les toxicomanes, on était comme les parias de la société. On n'avait droit à rien. Pas d'accès au centre de santé. Pas de test pour le sida ou les hépatites. Rien. Moi, la première fois que je me suis fait dépister, c'était en 2011, quand je suis venu au centre de Médecins du Monde. C'est là que j'ai su que j'étais séropositif. Mais à l'époque, j'étais en très mauvaise santé. J'étais vraiment mal. Mais j'ai eu la chance de rencontrer les gens d'ici qui m'ont permis d'avoir accès au traitement. J'ai tout raconté au médecin, que j'étais toxicomane, mes conditions de vie. Et on m'a mis sous ARV. Au début, mes CD4 étaient très bas, très très bas. Ça veut dire que ça faisait longtemps que j'étais malade. Mais quand j'ai été traité, on m'a bien accompagné et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Quand j'étais très malade, j'ai commencé à réduire l'héroïne. J'ai même essayé d'arrêter avec la méthadone, mais je n'ai pas réussi. C'était compliqué. Aujourd'hui, je prends toujours de l'héroïne, mais ça n'a rien à voir avec avant.
Aujourd'hui, Georges, que vous venez d'entendre, travaille à tiers-temps comme père éducateur à Médecins du Monde. Chaleureux, malin, il est très apprécié de l'ensemble de l'équipe, adoré des bénéficiaires du programme puisqu'il connaît bien leur situation, il l'a vécu lui-même. Son témoignage, d'ailleurs comme tous les témoignages des usagers de drogue qu'Igor Strauss a rencontrés, montre à quel point ils sont stigmatisés, complètement abandonnés, sans aucun droit. Les toxicomanes font partie de ce qu'on appelle les populations clés, au même titre que les prostituées ou les homosexuels, les 3 catégories de la population les plus méprisées. Et c'est uniquement en raison de la propagation extrêmement rapide du sida parmi ces populations que les autorités ont commencé à s'intéresser à eux. Mais s'intéresser ne veut pas dire comprendre ou accepter. Igor Strauss a rencontré Jumani Sango, directeur du plaidoyer de l'information de TACAIDS, la commission tanzanienne pour le sida, qui dépend directement du Premier ministre, et Sébastien Katikou, responsable des populations clés à TACAIDS.
Notre objectif, c'est de contrôler le VIH-Sida dans le pays, d'être sûr qu'il n'y ait pas de nouvelles infections et d'autre part, d'être sûr que ceux qui ont déjà été infectés aient accès au traitement. Donc il faut assurer le réapprovisionnement en ARV. Mais il faut aussi que les personnes vivant avec le VIH puissent avoir accès à d'autres besoins comme l'éducation, les activités génératrices de revenus, pour pouvoir vivre plus longtemps et mieux comme ils le souhaitent.
Alors la Tanzanie a réussi à faire baisser la prévalence ces dernières années, mais il reste un gros problème, celle des populations clés, comme on dit, à savoir les toxicomanes, les prostituées, les personnes les plus vulnérables. Qu'est-ce qui est entrepris par Takeds pour enrayer le phénomène, pour faire diminuer la prévalence chez les usagers de drogue?
Je reconnais qu'il y a un problème avec les populations clés. L'épidémie de sida progresse chez les usagers de drogue, les prostituées et les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Donc on a fait des études pour comprendre pourquoi la prévalence était si importante chez ces populations clés. D'autre part, on a fait en sorte que ces trois catégories de personnes aient accès aux centres de santé, qu'ils ne soient pas stigmatisés en raison de leur appartenance à l'un de ces groupes. Et nous continuons les campagnes d'information pour que les personnes qui se prostituent comprennent les risques liés à ces pratiques.
Vous souhaitez que ces populations à risque aient accès, comme les autres, aux services de santé, qu'il n'y ait plus de stigmatisation. Mais force est de constater, quand on discute avec des toxicomanes, ils nous expliquent que pour eux, il est quand même difficile d'avoir accès aux centres de santé. Et là, je ne parle même pas des homosexuels. Il y a de tels a priori que c'est assez difficile. C'est vraiment une question de mentalité. Donc, qu'est-ce que vous faites très concrètement pour changer les mentalités ?
Quand on parle de stigmatisation chez les populations clés, il faut dire qu'il y a une forme d'auto-stigmatisation. Ils sentent qu'ils ne sont pas comme le reste de la société, donc ils se stigmatisent eux-mêmes, parce que ces trois catégories de personnes agissent à l'encontre de nos traditions. Mais quand ils se rendent dans un service de santé, comme un hôpital d'État, par exemple, ou un autre centre de santé, il y a eu des études récentes qui ont révélé qu'il n'était absolument pas prouvé que ces personnes aient été stigmatisées ou chassées des services de santé. C'est ce que révèle une étude récente. Et nous, ce que nous faisons, c'est de nous assurer que ces trois groupes ne soient pas stigmatisés par le reste de la population. Mais encore une fois, en tant que service public, TACAIDS, la commission tanzanienne pour le sida, nous gardons à l'esprit qu'en Tanzanie, les pratiques de ces trois groupes sont hors la loi. Quiconque prend de la drogue est hors la loi. Quiconque se prostitue est hors la loi. Quiconque a une relation homosexuelle est hors la loi. Et ce que nous disons, nous, en tant qu'institution d'État, c'est que nous ne supportons pas ces pratiques parce qu'elles sont hors la loi.
Serikali lesisha vijana wanaotumia dawa za kulevya, moja wapo na lalama mnanibana sana kisheria zenu ni hatari sana kuliko hata madawa.
Nous voulons des droits pour les usagers de drogue, nous voulons vivre dans ce pays sans être stigmatisés, discriminés, nous voulons des droits.
Huduma za afya wauguzi mnatunyanyasa, hii sauti kauli mbiu unaongea kwa niaba wa.
Le message est clair avec ce texte d'un des pères éducateurs de Médecins du Monde. Ce que veulent ces usagers de drogue, ce sont des droits, mais pas facile d'obtenir ces droits quand on a en face de soi des personnes intransigeantes qui sont à la fois dans le déni, qui se cachent derrière les textes de loi existants alors qu'on ne parle en fait que de santé publique. Heureusement, certaines personnes l'ont compris, c'est le cas du docteur Sylvia Mankwe qui est responsable médicale de la municipalité de Temeke.
Pour moi, ce programme de réduction des risques est très positif, puisqu'en tant que médecin, je suis chargée de faire en sorte que la propagation des infections s'arrête chez les usagers de drogue. Mais c'est vrai que certains leaders du district n'avaient pas la même perception et que ce n'était pas facile de faire accepter le programme. Quand on parlait de réduction des risques, et notamment d'échange de seringues, les gens étaient contre. Ils nous disaient, si vous distribuez des seringues, vous allez augmenter le nombre d'usagers de drogue. Au niveau du district, les leaders, les hommes politiques, rejetaient ce programme. Ils n'en voulaient pas. Et puis, on leur a expliqué le programme. On leur a prouvé que ça marchait. Et aujourd'hui, tout le monde est convaincu que c'est le meilleur moyen de stopper les infections chez les usagers de drogue.
Vous allez ouvrir un centre justement pour l'échange de seringues, parce que ça a été difficile à le faire accepter par la population.
Comme les leaders avaient été sensibilisés et qu'ils approuvaient ce programme, ça n'a pas été trop difficile de leur faire accepter. D'ailleurs, ils nous ont aidés pour le financement et ils nous ont fourni le terrain. Donc on espère que le centre ouvrira dans l'année.
Je parlais hier dans les ministères où on dit que la consommation de drogue, la prostitution sont des phénomènes qui sont interdits ici, qu'en fait ce sont des gens qui se stigmatisent eux-mêmes. Et on sent qu'il n'y a pas une réelle compréhension du phénomène. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ces phénomènes, que sont la prostitution ou l'homosexualité, pour moi, ce sont des points à régler. Il faut aider ces personnes pour réduire la transmission des infections et surtout du sida parmi elles. Parce que nous savons aujourd'hui, avec les études que nous avons, que la prévalence du VIH est extrêmement importante chez les usagers de drogue, les travailleurs du sexe et les homosexuels. Et ces personnes vivent avec le reste de la population, donc il y a un risque d'infection pour l'ensemble de la population. Donc pour moi, en tant que médecin, il est évident qu'il faut agir en leur faveur pour faire baisser le risque de transmission de la maladie à l'ensemble de la population.
Une des clés de la réussite du programme, c'est d'avoir tout de suite intégré les usagers de drogue eux-mêmes, de leur avoir accordé des responsabilités. Leur passé et leur vécu en font des interlocuteurs privilégiés auprès de personnes qui ont été rejetées pendant des années. Ransom, 44 ans, est père éducateur en charge de la défense des usagers. Il assure également des formations auprès de certains policiers, un comble pour un ancien toxicomane qui n'a pas toujours été un ange.
I started to using drugs.
J'ai commencé à me droguer en 1990 et j'ai arrêté vers 2005. En fait, je suis allé faire le test en 2000. Là, on m'a dit que j'étais séropositif. J'étais très malade. C'était la deuxième fois que j'avais la tuberculose. Et là, je me suis dit, c'est plus possible. Mon corps est trop fatigué. J'ai essayé d'arrêter la drogue petit à petit. Ça a mis plus de 2 ans.
Comment vous avez réagi quand on vous a dit que vous étiez séropositif ?
Moi, je voulais connaître mon statut parce que je m'injectais la drogue et que je partageais toujours la seringue avec mes amis. Avant, c'était très dur de trouver des seringues, donc j'ai appris la nouvelle. On m'a dit de me soigner, sinon j'allais mourir. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, je vis avec.
Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de votre vie quand vous étiez toxicomane?
Je passais mon temps en prison. J'y suis allé 4 fois. 2 fois parce que la police m'a arrêté avec de la drogue et 2 autres fois pour des actes de violence. Oui, j'ai fait des choses pas bien, comme voler des gens, les menacer avec mon couteau. Mais le plus gros problème de violence, il vient de la police. Quand la police attrape un usager de drogue, elle le jette en prison, elle lui vole son argent, ses affaires. Il y a beaucoup de violence, c'est ce que j'entends depuis que je suis en charge de la défense des usagers de drogue.
Justement, est-ce que vous pensez que les conditions de vie des toxicomanes ont changé? Le rapport à la police, le rapport au voisinage, est-ce que ça a vraiment changé avec votre temps à vous?
Oui, ça a changé un peu, ce n'est plus vraiment comme avant. Avant, on tabassait systématiquement les toxicomanes. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes tabassées par des civils parce qu'ils avaient volé quelque chose. D'autres sont morts brûlés vifs parce que les habitants leur avaient mis le feu dessus. Ça, on a réussi à le faire changer.
Est-ce que vous aimez votre métier de père éducateur aujourd'hui?
Ah oui, je me sens bien parce que je travaille avec ma famille. Les usagers me connaissent, je les connais. Oui, je me sens bien comme père éducateur. Si je leur demande quelque chose, ils le font. Ils me respectent et ils comptent sur moi.
Vous parlez de respect, mais c'est important qu'on vous respecte aujourd'hui. Vous ne sentiez pas ce respect avant ?
Avant, on ne me respectait pas. J'étais juste un drogué. Quand je disais quelque chose, on me disait « Oh, toi, t'es qu'un drogué, pourquoi tu me parles ?» Maintenant, j'ai arrêté la drogue et quand je parle des maladies ou d'autres sujets, ils m'écoutent parce que ce sont mes frères et mes sœurs. Ils me respectent et c'est une bonne chose.
Priorité santé. Reportage.
Aujourd'hui, nous sommes en Tanzanie pour parler du programme de réduction des risques mis en place par Médecins du Monde pour faire face à l'explosion des cas de sida, d'hépatite chez les usagers de drogue. L'État tanzanien a également lancé un programme pilote de substitution à la drogue en permettant l'accès à la méthadone. Il y a environ 2 ans, le programme a été lancé à Umuhimbili, l'hôpital national où se trouvent les plus grands spécialistes du pays. Et il y a 1 an, une autre clinique méthadone a ouvert à Mwana Nyamala dans le district d'Ilala. C'est là qu'Igor Strauss s'est rendu pour rencontrer le responsable du programme, le docteur Kassian Nyandindi, un des rares psychiatres du pays.
During the time of starting this program, we had a lot of challenges.
Quand on a commencé ce programme, il y avait beaucoup de défis à relever. Le premier, c'était d'être suivi par tous les politiques et toutes les parties prenantes, qu'ils comprennent le programme et qu'ils nous donnent leur avis. Et c'est la première clinique méthadone en Afrique subsaharienne qui a eu le soutien du gouvernement.
But apart from that, it was not easy even from the community.
Ensuite, il n'a pas été facile de faire comprendre à la population que les usagers de drogue avaient besoin d'un traitement. Donc on a dû faire beaucoup de plaidoyers, rédiger tout un tas de documents, des notes d'intention, avoir une ligne directrice, pour être sûr d'avoir leur soutien. Et ensuite, on a démarré le programme tout doucement. On a aussi reçu énormément de soutien des consultants américains, car les États-Unis financent une partie du programme à travers le programme Pangea, qui est un fonds de financement de la lutte contre le sida. On a aussi regardé les programmes méthadone d'autres pays pour voir les difficultés qu'ils avaient rencontrées. On a discuté avec eux pour ne pas que ces problèmes se reproduisent dans notre pays.
Mais vous avez dit qu'au début, il était difficile de faire comprendre que les consommateurs de drogue pouvaient être traités. Du coup, comment était perçue la toxicomanie ?
It's more like a new phenomenon. That means
ici, c'est un phénomène nouveau. Donc, il n'y avait pas de ligne directrice. Le gouvernement n'avait aucun document sur le sujet. Il n'y avait aucune considération pour ce phénomène. C'est comme si c'était quelque chose de totalement nouveau. Il a fallu faire comprendre au gouvernement que c'était un vrai problème, qu'il devait trouver des solutions. Ça a été la même chose avec toutes les parties prenantes. Et ça a été un gros défi, parce que la toxicomanie n'était pas du tout perçue comme un problème de santé publique. Et puis les usagers de drogue n'ont pas seulement des problèmes d'addiction. Ils souffrent d'infections, du sida, des hépatites B et C. Leur condition physique est souvent mauvaise. Donc, quand on a commencé à les recevoir, il fallait aussi que tous les services de l'hôpital s'adapte, parce qu'on ne fait pas que leur fournir de la méthadone. On les traite aussi pour tout un tas de pathologies dermatologiques, dentaires, etc. Nous, on suit environ 400 personnes ici, et donc ça fait 400 personnes à qui il faut offrir d'autres services. Donc on avait besoin que l'administration apporte des réponses à cela.
Alors sur les 400 patients environ que vous suivez ici, est-ce que certains s'en sont sortis et n'ont plus besoin de méthadone ? Et est-ce que les rechutes sont fréquentes ?
Drug addiction is a chronic illness.
Vous savez, l'addiction à la drogue est une maladie chronique. Et pour l'instant, notre taux d'adhésion est de 78%. Ça veut dire que sur l'ensemble de nos patients, 78% suivent correctement le traitement et que ça leur convient. Mais ça veut dire aussi que c'est un échec pour 22% d'entre eux, et ce pour différentes raisons. Pour certains, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils viennent une fois, mais ils ont encore envie de consommer de la drogue. Donc on ne peut pas les forcer. Ensuite, on a des cas particuliers, des gens qui étaient recherchés par la police avant de commencer le programme. Ils commencent le programme et puis un jour, ils sont arrêtés par la police, se retrouvent en prison alors que le traitement leur convenait. Donc, on ne les voit plus parce qu'ils paient leur passé de toxicomane. Et puis, on a eu deux morts depuis que le programme a commencé. Le premier est mort d'une hépatite C et le second est mort d'une tuberculose avant-hier. Donc, voilà tout ce qui explique que ça ne marche pas toujours. Mais on est quand même content de notre taux de réussite. C'est bien.
Donc moi, j'ai discuté avec des consommateurs de drogue qui me disaient que il était parfois difficile pour eux de se rendre soit ici, soit à l'autre clinique qui distribue de la méthadone. Est-ce que ça, c'est pas un frein à votre action ?
Yeah, it's true. I mean, coming to the clinic every day is tiresome.
Oui, c'est vrai. Venir à la clinique tous les jours n'est pas facile. Et pour certains, le coût du ticket de bus est certainement un problème. Mais quand on y regarde de plus près, on se dit qu'on parle de gens qui achetaient de la drogue tous les jours. Et le prix de la drogue est beaucoup plus important que celui d'un ticket de bus. Vous savez, on a des patients qui dépensaient 30 000 shillings par jour dans la drogue, soit 14 euros. Le prix d'un ticket de bus, c'est 1 000 shillings, environ 50 centimes d'euros.
Oui, mais pour avoir la drogue, il s'adonne à des activités illicites. Il y a du vol, de la prostitution. Donc ça, on ne peut pas l'encourager.
Oui, je ne dis pas le contraire. Et je ne veux pas porter de jugement. Mais j'essaie de vous donner les explications selon mon vécu ici. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'avant de lancer ce programme ici, on avait regardé ce qui avait été fait dans les programmes méthadone d'autres pays et quels avaient été leurs problèmes. Ainsi, en ce moment, on réfléchit à la possibilité de donner de la méthadone à ramener à la maison pour ne plus qu'ils aient à revenir tous les jours. Mais on n'a pas encore commencé, car on veut être très prudent. On ne veut pas mettre en danger notre programme actuel. Donc on doit prendre toutes nos précautions pour être sûr que cette méthadone ne finira pas sur le marché noir dans la rue. Vous êtes journaliste, vous devez savoir que ça s'est produit dans d'autres pays, comme à l'île Maurice par exemple. Donc on ne veut pas se précipiter, on veut faire ça correctement.
So we don't want to go into that way, we want to do it through the right way.
Parmi la vingtaine de patients présents ce jour-là, il y a Myriam, ravissante jeune fille de 23 ans. Myriam vient d'un milieu aisé, ne ressemble pas du tout au cliché que l'on a des toxicomanes en général. J'ai une sœur, et il y a 5 ans, alors qu'elle était plutôt grosse, elle est devenue toute mince. Alors je lui ai demandé comment elle avait fait, et elle m'a dit que c'était grâce à la drogue, que ça coupait l'appétit. Moi, j'ai accouché en 2010, et je suis devenue vraiment grosse. J'étais à la maison, et je ne faisais rien à part m'occuper de mon enfant. Alors j'ai fait des régimes, et ça ne marchait pas. J'ai fait de la gym, et je ne maigrissais pas. Et un jour, je me suis rappelée de ce que m'avait dit ma sœur. Moi, je ne connaissais rien à la drogue et aux conséquences. Donc je suis allée dans un endroit qui s'appelle Zango, et j'ai acheté de l'héroïne. Et j'ai commencé à fumer, matin et soir. Tous les jours, matin et soir. Et j'ai perdu l'appétit, donc je ne mangeais plus.
I took it for about 5 months and I was in prison.
Ça a duré 5 mois et un jour je me suis fait arrêter par la police. Mon père est venu me chercher au commissariat et il m'a dit soit tu acceptes d'arrêter et je te sors de là, soit tu vas en prison. J'ai dit d'accord et il m'a sorti de là. Dès le lendemain, j'étais ici en train de parler à l'assistante sociale et au docteur et au bout d'une semaine, j'ai commencé la méthadone. Au début, c'était très bizarre, je ne me sentais pas bien. J'étais très fatiguée et j'avais l'impression que j'allais m'écrouler. Et puis, au bout d'une semaine, on a trouvé la bonne dose, j'ai retrouvé l'appétit et aujourd'hui, ça va.
Et est-ce que des fois, vous avez quand même eu envie de retoucher à la drogue ou est-ce que la méthadone vous suffisait ?
Par exemple, il y a quelques jours, j'ai voyagé. Mais quand on ne prend pas sa méthadone pendant 4 jours, on peut faire une rechute, être malade et vomir. C'est ce qui s'est passé en voyage, et du coup j'ai refumé de l'héroïne pendant quelques jours, et puis je suis revenue ici.
Donc là vous êtes sous traitement depuis le mois de mars dernier. Est-ce que les médecins vous ont dit quand est-ce que vous pourrez arrêter le traitement ? Est-ce qu'il y a déjà une deadline ?
On doit suivre le traitement pendant 2 ans. Là, ça fait déjà 8 mois, donc il me reste encore 4 mois, et à partir de là on verra si je peux diminuer les doses. C'est le protocole. Au bout d'un an, on diminue petit à petit les doses jusqu'à ce que l'on arrête. Donc pour moi, c'est pas encore le cas. Ce programme méthadone devrait maintenant se développer dans le pays, ainsi que celui de réduction des risques. La Tanzanie a franchi le premier pas pour venir en aide aux usagers de drogue et aux autres populations clés. Reste à savoir comment ces programmes vont évoluer et s'ils bénéficieront des financements adéquats. Médecins du Monde devrait se retirer du pays vers 2016, tout en continuant à apporter son soutien aux ONG locales comme Tampoud ou encore Mukikwe. Les belles initiatives existent donc, mais il reste encore beaucoup à faire. Le pays manque de psychiatres, le suivi psychologique est quasiment nul. Les points de distribution de la méthadone sont trop peu nombreux, il n'y a aucun programme contre les hépatites et il reste encore beaucoup à faire pour changer les mentalités, lutter contre la stigmatisation et toute forme de ségrégation. Quelle que soit la façon dont est perçue la toxicomanie, il ne faut pas oublier que certains s'en sortent. Quand on sait la difficulté que ça représente et la force de caractère qu'il faut avoir, on se dit que ça vaut le coup de les accompagner et de leur donner une seconde chance.
Mon père était alcoolique, donc il ne pouvait pas vraiment prendre soin de nous. Ma mère travaillait, mais elle gagnait peu d'argent, donc c'était difficile de s'occuper de ses 6 enfants. Et puis un jour, mon père est parti, donc ça a été vraiment dur. J'ai dû arrêter l'école et comme j'étais plutôt jolie, on m'a conseillé de participer à un concours de beauté. C'est ce que j'ai fait et ça m'a permis de gagner un peu d'argent. Je suis donc retournée à l'école, mais avant d'avoir mon brevet, j'ai commencé à boire et à fumer de la marijuana. Et puis petit à petit, j'ai commencé à consommer d'autres drogues comme l'héroïne. Et puis quand j'ai eu mon brevet, j'ai commencé à travailler dans un restaurant et c'est là que j'ai commencé à boire beaucoup. Comme c'était un restaurant, c'était facile. Je buvais de plus en plus et le week-end, je faisais la fête et je prenais beaucoup de drogue en tout genre.
And then I get kicked off from work and I decided to travel and go to South Africa.
Et puis un jour, je me suis fait virer du restaurant, alors j'ai décidé de voyager. Je suis partie en Afrique du Sud. J'ai vécu là-bas pendant 7 ans et demi. Là-bas, j'ai commencé à prendre du crack, de la cocaïne. Des fois, je mélangeais avec de l'héroïne et de l'alcool. Moi, je voulais juste être défoncée. Parfois, je ne savais même pas la drogue que je prenais. Le seul but, c'était d'être défoncée. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un. On est restés ensemble, mais il ne savait pas que je me droguais. Je suis tombée enceinte, mais je n'arrivais pas à arrêter. Je voulais arrêter, mais je n'y arrivais pas. Je suis allée à l'hôpital en Afrique du Sud. J'ai dit au médecin que j'étais toxicomane, qu'il fallait qu'il m'aide. Mais la seule chose qu'il m'a dit, c'est « Eh bien, arrête, il faut juste arrêter ». J'ai donc eu mon premier enfant. Alors que je consommais beaucoup de drogue, je l'ai allaité alors que je fumais encore de la drogue. Je suis restée à la maison avec mon mari et je suis tombée à nouveau enceinte. J'essaie d'avorter, mais ça n'a pas réussi. J'ai donc eu un autre enfant. Mais avec mon mari, ça n'allait pas du tout. Il me reprochait de me droguer, on n'arrêtait pas de se disputer.
I came back home. I was tired. My health was not.
Je suis donc rentrée en Tanzanie et là j'ai commencé à m'injecter. J'étais fatiguée, en mauvaise santé, je n'étais plus jolie comme avant. Je n'osais plus sortir pour rencontrer un homme ou trouver du travail. Je ne savais pas comment m'en sortir. Et puis un jour, j'ai reçu la visite d'un père éducateur de Médecins du Monde et de Sandrine. Ils étaient gentils et comme l'éducateur était lui-même un usager de drogue, il me conseillait, m'a mis en confiance. Et j'ai dit d'accord, je vais venir vous voir. Le lendemain, je suis allée au centre et ils m'ont montré des vidéos sur comment s'injecter sans risque, quels sont les effets de la drogue sur la santé. Pour moi, c'était tout nouveau. J'avais envie de comprendre, j'étais fatiguée et ça m'a beaucoup aidée. Soudainement, j'ai réalisé tous les torts que je me causais. Moi, je voulais devenir responsable, élever mes enfants, trouver un travail. Je suis allée en cure de désintoxication pendant un certain temps et ensuite j'ai fait en sorte de rester saine.
Est-ce que vous avez suivi un traitement de substitution comme la méthadone ou est-ce que vous avez arrêté comme ça, juste avec la volonté?
J'ai arrêté parce que je voulais arrêter. À cette époque, il n'y avait pas encore le programme méthadone en Tanzanie. Mais j'avais un traitement à l'hôpital pendant ma cure qui m'a aidée. Maintenant, je suis une mère célibataire, mais je suis avec quelqu'un. Je crois que je suis heureuse maintenant. Je suis séronégative et j'aide les gens qui sont encore dans la drogue, qui souffrent et qui ne savent pas où recevoir de l'aide. Je connais mes droits maintenant, je n'ai aucun regret. Je suis heureuse.
And I know my rights now, so I don't have any regrets. I'm happy.
Il y a plus de 2 millions d'injecteurs de drogue en Afrique subsaharienne et la lutte contre le sida ne pourra se faire efficacement en les laissant de côté. Merci à Igor Strauss pour ce reportage en Tanzanie. Une émission réalisée par Didier Bleu. À demain.